Bonjour, bonjour. Je m'appelle Amy Gail Gagné et je suis votre chamane. Vous savez, en choisissant d'enregistrer un épisode par semaine dans ce podcast, je savais que je m'engageais à mettre les deux pieds dans mon chemin de vie, dans ma mission, dans ce que je suis. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Je vous parle de ça parce que c'est en lien avec le sujet d'aujourd'hui, bien sûr. Alors, le podcast d'aujourd'hui va porter sur la force des mots que nous nous disons à nous-mêmes, que nous pensons, que nous disons aux autres, et aussi sur les mots que nous entendons. Donc, on va essayer de décortiquer ça pour voir l'impact que ça a sur notre façon d'être et notre confiance en nous et notre vision de nous-mêmes. Je vais commencer en vous partageant une citation qui me suit depuis plus de 10 ans et qui est devenue, je dirais, mon mantra principal. Donc, c'est une citation de Cochise, qui était un grand chef indien, et ça va comme suit. « Vous devez parler sans détour pour que vos paroles réchauffent nos cœurs comme des rayons de soleil. » Pour moi, cette phrase-là dit tout, en fait. Donc, ça va rechercher un peu le premier accord toltèque, qui dit d'avoir une parole impeccable, et l'idée que la franchise, la vérité, l'authenticité, en fait, c'est ça la lumière, c'est ça la magie, c'est ça la beauté. Et je suis tombée sur cette phrase-là, j'étais toute jeune, puis je me rappelle le bien que ça m'avait fait, puis à quel point ça comblait aussi un manque de vérité, un manque de paroles vraies, un manque de paroles justes. Et j'ai accroché sur la qualité des paroles, puis je suis toute petite, puis je me rappelle beaucoup d'accrochages avec mes parents à cause de ça. Et bon, je suis pas là pour vous raconter tout ça. Mais tout ça pour dire que, en fait, j'ai un aveu à vous faire. Le choix des mots que je fais, c'est une obsession. Et on pourrait croire qu'il s'agit d'une sorte d'anxiété de performance, de perfectionnisme. Je crois plutôt qu'il y a une raison plus grande que ça qui se cache derrière, et qui est en fait la conscience du pouvoir de transformation ou du poids que les mots ont. Alors, pour enregistrer l'épisode aujourd'hui, justement, je me suis souvenue de cette citation-là, de Cochise. J'ai fouillé dans un vieux cahier de citations que j'avais à 14 ans, où tout ce qui m'accrochait, tout ce qui me faisait réfléchir, je le notais là-dedans. Et j'ai aussi une petite pile de livres à côté de moi, donc j'ai Le prophète de Khalil Gibran, qui est le prochain extrait que je vais vous lire. Ensuite, j'ai un livre sur un petit livre sur la PNL, dont je vais vous parler aussi. Il y a le Ho'oponopono, je vais vous lire quelques petites pensées qui peuvent aider aussi au niveau du travail avec les paroles, avec les mots qu'on utilise. Alors, sans plus tarder, je vais aller avec Khalil Gibran. En fait, j'étais au milieu de mon secondaire et ma grande sœur étudiait en psychoéducation. Puis elle m'avait prêté le livre et ça avait été ma première initiation avec la philosophie. Je pense que c'est le livre qui m'a accroché en premier. Puis, c'est un grand livre de sagesse. En gros, en fait, c'est un prophète qui quitte un village où il a habité pendant 12 ans, puis il s'en va retrouver son île natale. Et juste avant de partir, en fait, les habitants du village lui posent des questions sur des thèmes précis. Donc, je peux même vous nommer, je vais voir la table des matières, vous nommer quelques thèmes. Donc, on a l'amour, le mariage, les enfants, le don, le travail, la joie, la tristesse, la maison. Il y a pas mal tout ce qui peut traverser une vie. Et c'est toujours extraordinaire parce que ça pousse à la réflexion et ça pousse à dépasser son propre soi et sa propre perception. Alors, je vais aller avec le texte sur la parole, bien entendu. Alors, un homme de lettres demanda « Quelle est la parole ?» Et il répondit « Vous parlez quand vous cessez d'être en paix avec vos pensées. Et lorsque vous vous lassez d'habiter la solitude de votre cœur, vous allez vivre sur vos lèvres. Ainsi, les sons qui s'en échappent vous servent de divertissement et de passe-temps. Et souvent, vous noyez la moitié de vos pensées sous le flot de vos paroles. Or, la pensée est un oiseau éthéré qui pourrait déployer ses ailes dans une cage de mots, mais ne saurait s'envoler. Certains d'entre vous recherchent les bavards, par crainte de rester seuls. Comme ils se sentent mis à nu par le silence de la solitude, ils préfèrent alors la fuir. Et d'autres parmi vous parlent, et sans le savoir ni le prévoir, De leur bouche sort une vérité dont ils ignorent la portée. Il en est aussi qui portent la vérité en eux-mêmes et la transmettent sans passer par la parole. C'est en leur sein que se lève l'esprit en silence rythmé. Lorsque vous rencontrez un ami au bord de la route ou sur la place du marché, que l'esprit en vous anime vos lèvres et inspire votre langue, et que la voix en votre voix parle à l'oreille de son oreille. Ainsi, son âme garde la vérité de votre cœur comme le palais se souvient du bouquet du vin, même si sa couleur est oubliée, même si la coupe n'est plus. Alors, c'est le petit texte que je voulais vous partager pour peut-être porter à réflexion. Je vous invite à le réécouter si vous en sentez le besoin. Et je vais tomber dans le vif du sujet. J'aime imaginer qu'un mot représente seulement le quart de notre pensée. La moitié ou le trois quarts si on est vraiment, vraiment chanceux. Ou si notre pensée a été créée à partir du mot. En fait, un mot castre une pensée. Un mot enferme une pensée. Alors, si on s'attache au mot, on reste pris dans le mot et on oublie la pensée. Ou on oublie l'état. Ou on oublie tout simplement l'être qui est devant nous. Donc, le nombre de discussions où les gens accrochent sur les mots et puis ils se disent « Ah, mais il y a 2 semaines, tu m'as dit ça. » Ou « Il y a 1 mois, tu m'as dit ça. » Ou « Tu viens juste de me dire ça et là, tu me dis le contraire. » Mais il faut considérer que déjà, les gens sont en constante transformation. Ils sont en constant mouvement. Mais aussi que le mot utilisé était tout simplement pas le bon, parce qu'il n'y en a pas de bon mot. Ou, je veux dire, un concept est toujours plus large qu'un mot. Un mot, c'est juste un outil, mais c'est un outil défectueux. Et le nombre de personnes qui maîtrisent convenablement les mots est très faible, et c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, il faut le savoir. Parce qu'à ce moment-là, on peut juste s'asseoir en avant de la personne et dire « Mais qu'est-ce que tu veux vraiment me dire en ce moment? » Pas qu'est-ce que tu m'as dit il y a 2 semaines? Ou t'es en train de me mentir parce que tu m'as dit ça il y a 2 semaines? Comme ça, en plus, on délaisse notre ego puis on est juste à l'écoute de la personne. Et je crois que c'est super important d'en prendre conscience parce qu'à ce moment-là, ça nous ramène dans le moment présent. On oublie, en fait, en acceptant qu'un mot exprime jamais suffisamment une pensée ou une façon d'être ou une personne, on oublie tout le passé, puis on focus sur ce qui se passe réellement dans le présent. Et puis, j'aime aussi le fait que ça nous permet de se reprendre. Si, par exemple, on dit quelque chose qui dépasse notre pensée, ben, on est totalement autorisé à dire « Je m'excuse, c'est vraiment pas ce que je pensais. » Mais c'est tout un effort, tout de même, d'apprendre à reconnaître ses torts, mais aussi d'apprendre à reconnaître qu'on s'est trompé dans notre mot. Mais il faut aussi que notre interlocuteur accepte qu'on se soit trompé dans notre mot. Ça m'amène aussi au premier accord Toltec. Donc, la semaine passée, dans l'épisode, je vous ai parlé des accords Toltec. Je vous les ai nommés rapidement. Et, ben, je veux vous apporter maintenant, vous faire un retour sur le premier accord Toltec. Donc, que ta parole soit impeccable. Alors, parle avec intégrité. Ne dis que ce que tu penses. N'utilise pas la parole contre toi-même, ni pour médire autrui. Donc, juste cet accord-là veut dire beaucoup de choses. Déjà, ne dis que ce que tu penses. Il faut déjà être conscient de ce qu'on pense. Donc, ça demande déjà un niveau de réflexion, de réaliser qu'est-ce qui nous appartient à nous et qu'est-ce qui appartient, par exemple, à notre éducation, à la société, à une idée préconçue. Donc, les phrases toutes faites, c'est souvent, ça correspond pas tout à fait à ce qu'on pense. N'utilise pas la parole contre toi-même. Hop là! Là, on embarque dans l'autosuggestion. Qu'est-ce qu'on se dit? Alors, vous savez, il y a plusieurs techniques qui existent pour aller jouer sur notre perception de nous-mêmes, l'image qu'on a de nous-mêmes. Alors, je pense par exemple à la PNL, qui est la programmation neuro-linguistique. Et en fait, il y a des coachs en PNL, il y a des livres qui parlent de la PNL. Il y en a très accessibles maintenant, il y en a dans toutes les librairies, dans toutes les bibliothèques. Et en fait, il s'agit tout simplement de changer le vocabulaire qu'on a envers nous-mêmes, envers les autres, envers nos idées, notre imaginaire, tous nos enfants, notre famille, notre petite voix intérieure, qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête. Et juste faire ça peut modifier non seulement nos rapports humains, mais aussi notre confiance, notre capacité à avancer, à atteindre nos objectifs. et notre respect de nous-mêmes, notre amour de nous-mêmes. Donc, j'en parlais beaucoup avec, j'ai, en fait, je vais commencer à tester la PNL avec des gens gratuitement, puisque j'ai très envie de devenir coach en PNL depuis un bon bout de temps. Et j'en parlais à des gens, puis c'est sûr qu'ils me disaient, oh non, mais je ne suis pas capable de faire ça, moi. Je suis toujours en train de me décourager dans ma tête. Sauf que il y a un moment où ça doit être tout simplement conscient. Il y a peut-être, oui, des techniques de coaching qui permettent de switcher très rapidement. Sauf que pour la plupart des gens, on a tellement une habitude ancrée de se parler d'une certaine façon. Je me souviens, il y a un moment quand j'étais au milieu de mon secondaire où j'avais commencé à me dire, à m'appeler ma belle dans ma tête. Pas parce que je me trouvais tellement magnifique ou parce que j'étais narcissique, mais parce que c'était une façon de m'apporter de la tendresse. Et puis, j'avais vu tout un changement dans ma confiance en moi. Donc, je me sentais plus forte. J'avais de la bienveillance envers moi-même. J'étais plus en violence contre moi-même. Donc, de changer le vocabulaire qu'on a, ça va nous apporter une paix intérieure. Et il y a quelque chose que j'ai adoré apprendre, en fait, c'est, vous savez que, en fait, il y a l'idée que le subconscient ne fait pas la différence entre votre voix et la voix d'un proche ou d'un parfait inconnu. Peut-être pas entre le proche et le parfait inconnu, mais le subconscient gobe tout en pensant qu'il s'agit d'une voix extérieure. Alors, si votre subconscient entend sa propre voix, votre propre voix, parce que je ne sais pas quelle est la voix de votre subconscient, il ne pourra pas savoir que c'est votre voix. Donc, vous pouvez vous suggérer tout ce que vous voulez si vous le dites à voix haute. Vous pouvez aussi vous le dire dans votre tête, mais on dit que c'est plus fort quand on dit à voix haute. Donc, par exemple, pour les gens qui ont l'habitude de se regarder dans le miroir et de ne pas aimer leur reflet, de se regarder et de se dire t'es belle, je t'aime, ou t'es beau, je t'aime, ça s'applique aussi pour les hommes. Ben, peut-être la première fois, vous allez vous trouver vraiment, vraiment ridicule. Peut-être la deuxième, la troisième, la quatrième, peu importe, mais il y a un moment où ça va changer de côté. Il y a un moment où vous allez arrêter de résister et vous allez accepter le compliment. C'est la même chose si vous souriez. On n'est plus dans les mots, mais on est dans l'autosuggestion. Si vous vous souriez devant le miroir, vous allez sentir l'effet de votre sourire si vous n'êtes pas en train de vous bloquer et de vous dire que vous êtes vraiment niaiseux. Donc, à partir du moment où vous acceptez de faire l'exercice complètement, vous allez vivre le bienfait qui va avec. Alors, se parler, apprendre à se parler avec tendresse, ça va faire toute une différence. Même si pendant des mois, vous vous trouvez ridicule. Même si vous avez l'impression d'avoir une dualité dans votre tête entre la bonne voix et la voix un peu destructrice. Peut-être, oui, ça va exister. Peut-être que ça existe déjà pour la plupart d'entre nous. Mais à un certain moment, vous allez juste accepter d'être gentil et bienveillant avec la voix qui est destructrice et ce sera plus elle qui va gouverner. Parce que on a, pour plusieurs personnes, c'est la voix négative qui prend le dessus. Quand on est en dépression, quand on est trop stressé ou anxieux. C'est la voix négative qui prend le dessus. Donc, d'apporter consciemment une autre voix, même si vous doutez. Vous allez douter, vous allez douter, puis à un moment donné, vous allez arrêter de douter. Vous allez sentir l'effet que ça va vous donner. Vous allez tellement vous sentir bien. Et qu'est-ce qu'on dit aussi dans le premier accord Toltec? On dit de ne pas utiliser la parole pour médire autrui. À partir du moment où on croit que notre âme est pur amour, à partir du moment où on accepte ça, où on le comprend, en fait, il faut considérer aussi que chaque fois qu'on va aller manquer de respect à quelqu'un ou dénigrer quelqu'un, on va à ce moment-là aller à l'encontre de notre nature. Donc, en plus de faire souffrir quelqu'un, on va se faire souffrir nous-mêmes. Plus on le fait, plus ça devient difficile ensuite de rétablir un équilibre. D'abord, de se pardonner à soi-même. Et de s'autoriser à être quelqu'un d'autre. Il faut accepter de laisser derrière ces façons de faire-là, accepter qu'on l'ait fait, mais vous savez, l'humain est un être de pardon, et dans le monde spirituel, il n'y a que du pardon. Donc, je veux dire, on regarde les hommes un peu comme des enfants qui apprennent, donc il n'y a que de la bienveillance. Alors, juste faire très attention à ce qu'on dit des gens et à ce qu'on dit aux gens. Donc, prendre conscience de ça aussi. Je reviens aussi tantôt par rapport à ce que je disais, je parlais des sources de conflits dans les discussions, dans les échanges. Il faut aussi prendre en compte que chacun a sa définition. Donc, on prend un mot, on est dans une conversation, tout se passe bien, tout d'un coup, quelqu'un dit un mot et quelqu'un se fâche. Parce qu'avec chaque mot, chaque personne a son bagage. Par exemple, en philosophie, qu'est-ce qu'on fait quand on veut former un discours, une réflexion? On commence par définir les concepts. Alors, on va prendre les mots et on va prendre le temps de les définir dans le sens que le texte va prendre. C'est très simple si je parle d'un chat, mais si je parle d'amour, là, ça peut devenir plus compliqué. Si je parle de responsabilité, c'est pas tout le monde qui a un sens des responsabilités ou qui voit les responsabilités de la même façon. Si je parle de liberté, je risque de me faire dire par beaucoup de monde. Non, la liberté, ça n'existe pas. Alors que pourtant, dans la vie et surtout dans l'époque dans laquelle nous sommes, la plupart des gens sont libres de choisir n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que souvent, les mots correspondent à l'éducation qu'on a eue, à ce qu'on ressent aussi par rapport à ces mots-là. Et c'est en lisant un livre de Milan Kundera qui est L'insoutenable légèreté de l'être, où il avait fait tout un chapitre sur le sens des mots, puis expliquait en fait toutes les tensions que ça pouvait créer dans un couple. Et ça m'avait fascinée parce que c'est exactement ça le sujet en fait. Donc, de prendre le temps de dire à quelqu'un, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu le vois? Et moi, je le vois comme ça. Alors maintenant, on va mieux se comprendre avant de monter sur ces grands chevaux. Je ne sais pas ce que c'est ce que vous faites. Mais je dis que c'est un excellent outil de prendre le temps de savoir qu'est-ce qui se cache derrière les mots que les gens utilisent. Vous savez, aussi en portant attention aux mots qu'on utilise et en essayant toujours de peaufiner un peu et d'atteindre un mot peut-être un peu plus précis, ça va nous permettre d'apporter beaucoup de clarté dans notre pensée. Donc on dégage, on dégage, on dégage, on est toujours en train d'affiner. Pas que ça devienne une obsession, ça devient plutôt un automatisme. Oui, il y a un petit effort. Mais plus on cherche à atteindre les bons mots, plus à un certain moment ça coule. D'un autre côté, moi, ça m'est arrivé à certains moments de ne plus vouloir parler parce que j'arrivais pas à trouver les bons mots. Et je dirais que c'est pas nécessairement une mauvaise chose, en tout cas dans mon cas. Parce que parfois, quand on se sent complètement dépassé, ça se peut qu'on aille dire n'importe quoi. Et je l'ai fait souvent. Au lieu de tout simplement dire pour l'instant, je trouve pas les mots. Et c'est très simple parce que c'est aussi une façon de mettre ses limites et de dire, écoute, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me ressourcer, puis je vais trouver les mots pour exprimer tout ça plus tard. Puis c'est correct, c'est pas grave, ça presse pas. Un autre point, c'est aussi la vibration des mots. Donc, on dit en fait que tout est vibration. Donc, nous vibrons, les plantes vibrent, même les objets inanimés vibrent. Les animaux vibrent. Donc tout est animé sans en avoir l'air nécessairement. Et puis, les mots ont une vibration. Donc si je dis le mot mort, et si je le dis plusieurs fois, ou tristesse, ça se peut que je me sente pas très bien. Que je sente que mon état s'alourdit un peu. Mais si je dis le mot joie, et que je le dis plusieurs fois, ça se peut que mon état s'élève un peu. Il y a le mot amour, il y a beaucoup de mantras, en fait, de mots en sanskrit qui ont une vibration très élevée. C'est pas pour rien qu'on les dit et qu'on les utilise. Donc, le fameux Aum a aussi une vibration très élevée. Ou très basse d'une certaine façon. Ah, ça c'est intéressant. Mais c'est une note basse, vibratoire, et qui va avoir comme effet d'élever la vibration. Donc, je suis pas sûre de me contredire, mais ce que je veux dire, c'est que les mots à eux seuls ont un pouvoir de vibration. Donc, en plus d'avoir un pouvoir de transformation et d'auto-suggestion, ils ont un peu leur magie. Chacun vient avec sa petite magie. Il y a des magies un peu plus fortes, un peu plus puissantes que d'autres. Une autre chose, et là je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rester bloqué sur un mot ou un titre ou une définition qu'on vous a donnée et de l'entendre pendant des années dans votre tête? Une insulte, une pensée qui serait devenue un peu comme une malédiction? Ben, ça aussi, il faut les laisser aller à un certain moment. On n'est pas obligé de garder ça dans notre tête tout le temps. Donc, ça aussi, c'est un peu comme le dialogue qu'on se dit à nous-mêmes quand on a des souvenirs comme ça qui nous reviennent, c'est de dire avec bienveillance que on entend ça et qu'on accepte d'être plus que ça, d'être autre chose que ça et de laisser aller ça. Puis, plus ça va aller, plus on va prendre la confiance par rapport à ça, et au lieu de se sentir abattu, en fait. Ça me fait penser à mon fils qui pleure, puis qui arrête de pleurer, et je lui demande qu'est-ce qui se passe? Et puis, il me regarde, puis il me dit peine! Puis, il recommence à pleurer, alors que pourtant, ça allait mieux. Donc, de se rappeler un état nous fait replonger dedans. On a une grosse mémoire des émotions. Donc, Mané, c'est juste de laisser aller. Puis les enfants nous montrent à quel point c'est facile pour eux de changer d'état, de changer leur focus, changer d'émotion. Puis on est tout aussi capables. C'est juste qu'on a pris l'habitude de rester accrochés. Mais on voit juste en les regardant à quel point c'est possible. C'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont dit, mes parents m'ont dit ça quand j'avais tel âge, puis ça m'est rentré dedans, puis j'ai jamais réussi à m'en départir. Ou des gens qui disent, mais moi, je manque de mémoire. Moi, je j'ai pas ce talent-là. Moi, je suis pas manuel. Moi, je suis pas bon en cuisine. Moi, je suis pas bon en sport, de toute façon. J'ai jamais été bon là-dedans. Moi, je suis pas capable de faire ça. J'en reviens à l'autosuggestion. C'est la pire chose qu'on peut se dire parce que notre subconscient est prêt à croire n'importe quoi. Donc, vous pouvez vraiment vous faire croire le contraire. Alors, ça devient comme un cercle vicieux. C'est comme s'alimenter soi-même. C'est comme si on mangeait du McDo tout le temps. Donc, à un certain moment, il faut juste accepter de façon aussi banale que ça de mettre ces pensées-là de côté, de mettre cette autosuggestion, cette... En fait, c'est du behaviorisme. On est en train de se conditionner à être comme ça. Alors de dire, je te pardonne maman, je te pardonne papa, je me pardonne moi-même. Ok, j'ai pas aimé le sport pendant 20 ans. Finalement, je me rends compte que ça me fait du bien. Ça me fait du bien de bouger. Alors maintenant, j'aime le sport. Maintenant, j'aime ça. J'aime ci, j'aime ça cuisiner parce que ça me fait sentir bien. Et puis pouf, on vient de changer ça de bord. Pour vrai, je peux même pas vous dire que c'est plus compliqué que ça parce que ça l'est pas du tout. Il s'agit juste de changer ses mots, puis la vision va suivre. Si la vision n'est pas déjà là, on change les mots avant. Il y a quelque chose aussi d'intéressant par rapport à quand on met des mots sur un état. Mettons qu'on se sent irritable, on se sent pas bien, on se sent vulnérable ou dépassé par les événements dans une journée, puis on en prend conscience à un certain moment, on se dit je me sens pas bien aujourd'hui. Ou je me sens fatiguée aujourd'hui. La prise de conscience sert à quelque chose, mais on a beaucoup tendance à le répéter dans notre tête. Donc, on va comme continuer la journée en se disant, ah, mais c'est vrai, je me sens fatiguée aujourd'hui. Puis plus on le dit, en fait, plus on est fatigué parce qu'on est en train de se convaincre. Donc, je reviens, je répète, je sais, mais pour dire à quel point l'esprit, c'est fort. Donc, un coup qu'on prend conscience de quelque chose, c'est correct, on en a pris conscience. On peut le sortir de notre, de notre tête, on peut enlever les mots. Puis on va juste poser une action pour s'aider. Mais ça sert à rien de le répéter, ça devient vraiment de l'autosuggestion. Il y a une autre chose aussi que j'ai beaucoup aimée, j'ai suivi une formation, en fait, ça s'appelle le programme Antidote, qui est pour aider les femmes à reprendre le pouvoir. Ça a été fait pour les femmes, pour reprendre leur pouvoir sur leur vie, prendre conscience beaucoup de leurs habitudes, de ce qui leur a été légué par leur éducation, beaucoup pour le permettre aux femmes de s'épanouir, en fait. Et ça fait quand même plusieurs. Je pense que ça fait presque 20 ans que le programme, ou plus que 20 ans que le programme existe. Et à l'époque, les femmes étaient encore beaucoup moins épanouies qu'aujourd'hui, mais même aujourd'hui, c'est encore tellement d'actualité. Et la femme qui a créé, en fait, ce programme-là s'appelle Nicole Dubois et c'est ma grande mentor, c'est mon inspiration beaucoup. Puis elle travaille aussi beaucoup au niveau de la spiritualité. Elle utilise un symbole qui est très, très simple dans le programme Antidote, qui est un canard en caoutchouc qui fait quick-quick ou en silicone. Et en fait, c'est que quand une femme va aller pour se dénigrer tout haut, donc de dire « Ah, mais je sais, c'est vraiment niaiseux, je suis vraiment niaiseuse, je me suis trouvée tellement niaiseuse de faire ça, c'est niaiseux ce que je vais dire. » Le mot « niaiseux » revient vraiment souvent, c'est pour ça que je l'utilise. Donc, quand une femme essaie de se justifier ou de se dénigrer un peu ou ah, je me suis trouvée plate de dire ça. Tu sais, tout ça, en fait, on fait sonner le petit canard. Ou c'est con, mais vous comprenez le principe. Donc, et ça, en fait, l'idée, c'est que oui, c'est tannant un peu de faire sonner le canard tout le temps pendant la rencontre, mais ce qu'on s'aperçoit au fil des semaines, c'est que quand les femmes reviennent et parlent au début, elles disent souvent ah, j'ai entendu le petit canard dans ma tête. Je me suis dit telle chose, puis je me suis rendu compte que j'ai pris conscience que j'étais en train de me dénigrer. Donc, d'avoir un symbole comme ça qu'on associe, alors quand on est en train de mettre la petite voix là, qui est un petit peu destructrice dont je vous parlais tantôt, quand elle prend le dessus, ben on s'apporte un symbole qui va permettre d'en prendre conscience et ensuite de laisser de moins en moins d'espace à cette voix-là. Pour faire suite à ce potentiel-là d'autosuggestion ou de conditionnement, il y a l'auteur Jim Rohn, donc ça s'écrit J-I-M-R-O-H-N, qui dit en fait, vous êtes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Ça veut dire que, en fait, on recopie les habitudes des gens, on recopie ce qu'on voit, mais on recopie aussi ce qu'on entend. Donc, prendre conscience de la façon d'être des cinq personnes qui nous entourent, qui sont les plus proches de nous, et ensuite peut-être y apporter quelques modifications dans ces gens-là qui nous entourent, si on veut progresser, peut faire une très grande différence dans notre attitude et dans notre aptitude au succès. C'est le genre de choses que plusieurs entrepreneurs à succès et beaucoup de gens heureux ont compris. Donc, ça peut paraître narcissique ou égocentrique de retirer des gens de sa vie. C'est pas vraiment l'idée. Mais c'est de faire attention aux gens qui sont autour de nous, qui nous influencent. Parce que ça va avoir un impact. Il y a aussi le livre Connected, qui est en fait une étude où on parle vraiment du grand tout, donc à quel point toutes nos relations nous influencent. Donc, ça amène aussi une plus grande conscience et peut-être à faire plus attention à ce qui nous entoure si on sent qu'on stagne et qu'on n'arrive plus à progresser. On va terminer en parlant, en explorant un peu les affirmations positives. Donc, on voit souvent, en fait, je pense, une affirmation positive comme quelque chose de naïf, de ridicule, qui mène à rien. Pourtant, c'est pas juste d'avoir une belle pensée, une belle parole et ensuite de laisser tout ça de côté, hein. Et c'est pas non plus de planer dans un monde parallèle. Les affirmations positives servent en fait à aligner la pensée, donc à aller focusser sur qu'est-ce qui est essentiel ou qu'est-ce qui est important justement dans cette affirmation-là. Alors, par exemple, je vais vous partager mes idéaux du Reiki, qui sont en fait un peu comme un mantra qu'on va se répéter à chaque jour le matin. Donc, quand on reçoit notre initiation au Reiki, on reçoit aussi les idéaux. Je peux vous les partager, ce ne sera pas nocif. Alors, juste pour aujourd'hui, je ne me ferai pas de soucis. Juste pour aujourd'hui, je ne me mettrai pas en colère. Juste pour aujourd'hui, je ferai honnêtement mon travail. Juste pour aujourd'hui, respecte la vie autour de toi sous toute forme. Juste pour aujourd'hui, j'accepterai mes nombreuses bénédictions. Vous voyez le juste pour aujourd'hui qui revient constamment? C'est aussi une façon de nous ramener dans le moment présent. Donc,
de pas penser au passé, pas penser à qu'est-ce qui a été fait, pas juger, pas se dire justement, moi, je peux pas faire ça. Donc, on est dans le moment présent. On y va une étape à la fois, un pas, une minute, une heure à la fois. Alors, juste pour maintenant, est-ce que je peux ne pas me faire de soucis, ne pas être en colère, faire honnêtement mon travail, respecter la vie, toute forme de vie autour de moi? Est-ce que je peux accepter toutes les bénédictions? Donc, est-ce que je peux vivre dans la gratitude? Alors, vous voyez, on peut le reformuler un peu à sa façon pour que ça résonne le plus possible, pour qu'on comprenne le plus possible le message et que ça aille droit à l'essentiel. Alors, ça, c'est les idéaux du Reiki que je vais lire de plus en plus. J'avoue ne pas l'avoir fait à tous les jours depuis mon initiation qui était en décembre. Définitivement, c'est absolument extraordinaire, puis ça va aller nous faire justement focusser juste au bon endroit pour la journée.
Il y a aussi certains exemples d'affirmations positives qu'on porte sur soi. Donc, par exemple, les tatouages, ça va contenir une pensée qui est très importante pour soi, une vision, une idée, une citation, et qu'on va vouloir se rappeler à chaque jour, en fait. En se tatouant une phrase, ça devient un mantra, ça devient quelque chose sur quoi on va focusser. Il y a les bijoux qu'on peut porter qui soit représentent un symbole pour nous, ou des bijoux qui ont des mots aussi, et c'est de plus en plus populaire dans le mouvement de la pleine conscience, de porter des bijoux dans le yoga aussi, des bijoux qui vont avoir des mots écrits dessus. Et par exemple, moi j'en ai deux, j'en ai un en cuivre et un en laiton, sur lesquels il y a deux citations différentes que j'ai choisies avec beaucoup de précautions. En fait, j'avais découvert l'artiste qui faisait les bijoux, je les voulais tous, mais j'avais pris le temps de regarder mes gros coups de cœur et qu'est-ce qui résonnait le plus chez moi parce que je voulais que ce soit aussi des mantras. Donc, je vous les lis à l'instant. En fait, ils sont tous les deux en anglais, donc je vais vous les traduire en français. Tu es un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Donc, c'est une citation de Bouddha. Et pour moi, c'était en fait pour me rappeler toujours que je suis aimée. Donc, en reconnaissant la valeur qu'on a et en le mettant au même titre que les choses magnifiques comme les arbres ou les étoiles, en fait, on comprend qu'on a la même valeur aussi et qu'on fait partie d'un très grand tout. Et il y a aussi cette pensée qui dit qu'on est une poussière d'étoiles. Au niveau de la science, ça fait du sens. Donc, c'est vraiment dire on est toutes un, on est toutes la même chose en fait. Donc, c'est une citation qui englobe beaucoup de choses. Bouddha disait rarement n'importe quoi. Donc, le deuxième, qui est en cuivre, il est écrit: élève tes mots, pas ta voix. C'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. C'est une citation de Rumi, qui est aussi très connue, Rumi. En fait, c'est lié beaucoup à mon bagage familial ou au moindre souci, à la moindre émotion, au moindre problème ou quoi que ce soit, contrariété. Il y a une tendance à crier dans ma famille que j'ai travaillé fort pour sortir de ma vie. Mais avoir un petit quelque chose pour le rappeler, c'est bien. Et aussi, en fait, il y a un autre niveau à ça, qui est tout simplement le fait que les mots ont plus de valeur que le niveau de la voix. Donc oui, il y a certains moments où élever la voix, c'est nécessaire. Peut-être si on se retrouve dans une situation de grande violence ou des choses comme ça. Mais c'est aussi une façon pour moi d'élever la puissance de mes mots. Donc, c'est un mantra sur la puissance des mots. Alors, dans un podcast sur la puissance des mots. Alors, c'est ça, c'était pour vous dire qu'il y a toutes sortes de façons aussi d'avoir des affirmations positives. On peut avoir un cadre au mur et il y a plein de façons de se rappeler ça pour que ça fasse partie de notre quotidien, vraiment de notre visualisation, de nos habitudes. Donc, à vous de voir s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, que vous avez envie d'essayer. Et si vous le faites déjà, vous pouvez m'en parler aussi. Je vous ai aussi parlé de Ho'oponopono en ouverture, alors je vais vous lire quelques paroles du Ho'oponopono. En fait, de base, le Ho'oponopono, donc on dit que c'est une tradition ancestrale pour guérir les conflits. Alors, Ho signifie provoquer, causer. Pono signifie droit, correct, dans un ordre parfait. Le doublet Ponopono signifie approuvé et désiré par tous. Alors, Ho'oponopono, c'est avoir le souhait de corriger les émotions négatives et de rétablir l'harmonie. C'est rendre droit
ce qui va de travers dans toutes ses relations aux autres. En fait, le Ho'oponopono, c'est une tradition hawaïenne ancienne et ce qui est super important à comprendre comme étant la base, il y a, ça a évolué quand même beaucoup avec le temps, mais il y a quatre mots ou courtes phrases qui expliquent très bien le principe du Ho'oponopono qu'on applique aujourd'hui. Mais à la base, c'était quand même plus complexe. Donc, on peut se dire dans notre tête « je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci ». On peut le dire pour soi-même et on peut le dire pour les autres, pour n'importe quel conflit qui a eu lieu dans le passé ou qui n'est pas encore réglé dans le présent. Et on dit en fait que ce que ça fait, c'est que ça envoie au niveau énergétique l'intention. Donc ça va participer de façon intangible à régler, à apaiser le conflit. Une expérience qui a été faite qui est très intéressante, c'était dans, je me rappelle plus exactement le lieu, mais je peux vous dire quelle expérience a existé. Donc en fait, on avait pratiqué le Ho'oponopono en groupe. Donc plusieurs personnes se sont réunies pour méditer ensemble et répéter dans leur tête en continu « Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci ». Donc en silence, personne parle. C'est simplement par la pensée. Ils avaient pratiqué ça en fait à côté d'une prison où le taux de criminalité était très élevé. Il y a plus d'employés qui voulaient travailler là. Je pense que j'en ai parlé dans mon premier épisode, mais dans le fond, c'était vraiment l'enfer sur Terre, on pourrait dire. Et donc, les gens se sont réunis et ont pratiqué ça. On a vu, suite à ça, une décroissance énorme dans la criminalité, les problèmes qui se passaient dans la prison, et les employés ont cessé de démissionner en continu ou de faire des burn-out ou des dépressions ou des suicides. Donc, on a vraiment vu un changement et c'est David Wilcock qui en parle dans son livre « The Source Field Investigation ». Donc, c'est à partir de là que j'ai découvert cette étude-là et que j'ai commencé à pratiquer le Ho'oponopono moi-même en cas de conflit. Et c'est ça, il l'utilisait en fait en introduction à la connexion invisible qu'il y a à travers toute chose et en le fait que la pensée elle-même a énormément de pouvoir. Et dans le fond, là, c'est juste une petite parenthèse, je vais retourner vers le Ho'oponopono. C'est que à la base, en fait, c'était pratiqué par un groupe dans un village, justement à Hawaï, avec un chaman, guérisseur, maître de cérémonie, on allait appliquer certaines étapes qui étaient en fait un peu comme une thérapie familiale ou une thérapie communautaire. Les étapes ont tout un nom. Donc on a la pulle qui était la prière d'ouverture, qui était l'ouverture de la cérémonie au fond. Ensuite le kukulu, kumuhana, qui était la déclaration du problème. Ensuite, le hala, identification du fauteur de trouble ou de la personne qui a été lésée. Le hihia, les liens qui unissent les différents protagonistes. Donc, on faisait un peu comme un procès, mais différent. Donc, ensuite, le mahiki, le détachement par la discussion. Donc, on allait se vider un peu de ce qui s'est passé. Les différentes couches du problème sont levées une à une. Ensuite, le manaho, était l'expression sincère de ses opinions. Donc, chacun allait dire comment il se sentait par rapport à ça. Le ho'omalu, c'était un rappel au calme demandé par le chaman. Donc, parce que ça peut dégénérer, hein? Ensuite, le mihi, c'était se confesser être désolé. Donc, le moment où la personne qui était fautive s'excusait, ou peut-être les plusieurs personnes, parce que souvent dans un conflit, il y a plus qu'un fauteur de trouble. Ensuite, il y avait le kala. Réponse au mihi par le pardon. Donc, l'autre personne acceptait en pardonnant. Le pani, partage un repas pour ramener la détente dans la famille. Et on terminait avec le pulhoopo, qui était la prière de remerciement pour clôturer le Ho'oponopono. Et ramener chacun dans l'amour et la paix. Donc, on utilisait le Ho'oponopono à cette époque-là dans une cérémonie qui incluait beaucoup de monde, qui était très large. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait à l'époque actuelle, c'est que principalement, il est utilisé de façon personnelle. Donc, on va l'utiliser pour régler les conflits en soi et avec les autres aussi. Donc, avant de vous lire quelques propositions qu'on peut utiliser l'Ho'oponopono pour des problématiques concrètes, je vais vous ajouter quelque chose de très intéressant dans le livre que j'ai avec moi. Donc, on parlait en fait dans le livre des attentes. Parce que je sais que quand j'ai commencé à pratiquer le Ho'oponopono, même si je savais que je devais pas avoir d'attente, parce que ça crée une forme de résistance en fait, si on dit... moi, ma formule à moi, c'est « je suis désolée, je te demande pardon. Merci, je t'aime. Je préfère ça que pardonne-moi parce que j'aime pas les ordres. Donc, je disais, je suis désolée, je te demande pardon, merci, je t'aime. Et j'avais cette espèce de, ok, ben ça va arriver, ça va fonctionner. C'est pour ça aussi que j'ai enlevé le pardonne-moi parce que je trouvais que ça créait comme une attente aussi. Ben dans le livre, ce que j'aime beaucoup, que je viens de découvrir maintenant, c'est que la personne rajoutait un surprise. Donc, je suis désolée, je te demande pardon, merci, je t'aime, surprise. Je pense que cette personne-là partage un cerveau similaire au mien. Donc, en fait, c'est que elle disait que la surprise remplit cette espèce de « mais là, c'est certain que ça va arriver ». Donc, la surprise laisse l'espace pour les possibilités. Alors, je vous invite à le faire si ça vous intéresse. Dans le livre que j'ai, on a plusieurs formules pour le Ho'oponopono. On a une formule aussi pour l'addiction. « Je suis désolée d'avoir toujours besoin de plus et de me remplir de plaisirs éphémères. Pardon de conserver cette mémoire de manque et de vide. Merci de libérer mon espace intérieur de ces croyances addictives. Je t'aime à moi-même qui résonne du vide intérieur. Je t'aime à moi-même qui apprécie un peu plus chaque jour ce vide en moi. Je t'aime à moi-même qui découvre que je suis remplie de paix et d'amour. Je t'aime à l'univers qui me réchauffe de l'intérieur. Désolée, pardon, merci, je t'aime. » On peut le réciter ensuite en boucle. Donc, vous comprenez que vous pouvez changer les mots pour des mots qui vous conviennent mieux, mais que l'effet est tout de même là une fois qu'on a trouvé les bons mots. On a aussi une formule pour la déception. « Je suis désolée d'être déçue et de gâcher cette journée par cette émotion négative. Pardon de garder cette mémoire de contrôle sur les événements. Merci de me faire apparaître ce besoin de lâcher les attentes. Je t'aime à moi-même qui fait tout ce qui est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats. Je t'aime à moi-même qui dès aujourd'hui apprend à lâcher les attentes. Je t'aime à moi-même qui décide de s'occuper uniquement du moment présent. Je t'aime à l'univers en qui je donne toute ma confiance. Désolée, pardon, merci, je t'aime. » J'aime bien, il y en a un sur les conflits familiaux ou les conflits avec les autres par rapport aux croyances ou les petits accrochages d'idéaux. Donc, je suis désolée d'exiger des autres le même comportement que moi. Pardon d'avoir cette croyance que je suis une référence à suivre. Merci de reconnaître le jeu de l'ego pour m'en détacher. Je t'aime à moi-même qui apprend à lâcher les attentes. Je t'aime à l'autre qui me renvoie à mes croyances pour les nettoyer. Je t'aime à l'univers et son pouvoir de transformation intérieure. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Donc vous voyez, ça continue comme ça, il y a plein de possibilités. Je pense que vous avez compris l'essentiel. Je vous invite à l'essayer et bien sûr, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas juste dire ça une fois par mois et se dire que ça va fonctionner. C'est un effort quotidien puis c'est une façon de remanier sa façon de penser. Donc on est encore dans l'autosuggestion. Et c'est ça, c'est de changer son focus et sa perception des choses, de finir par voir que les choses arrivent pour nous aider à changer. J'aime bien l'idée selon laquelle on dit que les choses arrivent pour nous, et non, on dit que les choses nous arrivent à nous, mais en fait, c'est que les choses arrivent pour nous. Donc, les choses n'arrivent pas pour nous faire souffrir, elles arrivent pour nous faire grandir. Je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour ceux qui souhaitent partager et rien manquer des prochains épisodes aussi, pour être tenus au courant, il y a la page Facebook de La Chamane qui existe depuis peu. J'y partage les épisodes et je veux aussi que ça devienne un lieu de partage en général. Je vais poster de plus en plus des articles ou des vidéos, des trucs que je trouve au fil de mes recherches. Alors, je vous invite à venir là, vous pouvez m'écrire si vous avez des réflexions qui vous sont venues à la suite de l'écoute du podcast. Alors, ça va me faire vraiment plaisir d'en parler avec vous. Ça me réjouit toujours de connecter avec les gens suite à l'épisode. Et on va se retrouver très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir!